La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans la danse des mots qui aujourd'hui voudrait se pencher sur les problèmes de l'édition numérique. À propos d'ailleurs d'une réunion qui a eu lieu il y a quelques jours, c'était le 22 mai dernier, avec une réflexion justement sur ce que c'est que l'édition numérique, ce qu'elle permet, ce qu'elle change au niveau peut-être des lecteurs, peut-être des lectures, mais aussi de la création, mais aussi de l'écriture même. Alors, merci à vous, Blandine Lebourg et Dominique Tourte, d'être venus participer à cette émission. Blandine Lebourg, vous travaillez donc pour La Pleine Image, qui est donc cette structure qui organisait cette rencontre. Et Dominique Tourte, vous êtes éditeur, vous régnez, je crois, sur la destinée des éditions Invenit, qui se sont spécialisées dans l'édition numérique. Je me trompe pas ?
Tout à fait.
Bon, merci. C'est très bien. Alors, la première question sera très simple, puisqu'on parle d'édition numérique. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous rappeler ou nous expliquer, si on ne le sait pas, ce qu'on appelle édition numérique, Blandine Lebourg?
Oui, donc ça peut être différentes choses, en fait. Effectivement, c'est l'impact du digital sur le livre et la chaîne du livre.
Là, déjà, vous dites l'impact du digital, comme si c'était évident.
Oui.
Qu'est-ce qu'on appelle le digital?
Et mais en fait, donc c'est toutes les répercussions entraînées par la révolution Internet, donc sur le média du livre. Et donc on va principalement parler de dématérialisation, c'est-à-dire que le livre objet initial, objet physique, objet papier, peut devenir finalement un objet uniquement virtuel. Donc là, on va avoir plusieurs types de livres, livres numériques. On va avoir des livres dits homothétiques, donc c'est-à-dire simplement le livre papier tel qu'il est en version uniquement numérique, sur un format, sur une tablette, sur une liseuse. Différents formats, PDF.
C'est ça qu'on appelle homothétique. C'est-à-dire qu'on n'a pas dans la main de papier, de carton, voilà. On ne tourne pas de vraies pages, on voit un écran, mais sur l'écran apparaît le livre tel qu'on pourrait le voir si
tout
on avait du papier entre les mains.
C'est page ça? Page par page.
Donc, etc. Homothétique, ça veut dire à la semblance
similaire,
de. Ça ressemble peu. À. C'est ça?
Tout à fait, c'est exactement ça.
Ensuite, évidemment, le numérique permet beaucoup d'autres choses. C'est là que c'est très intéressant sur des questions de création. C'est-à-dire qu'il va pouvoir permettre d'avoir des livres plus enrichis. Donc, on va avoir des livres qui vont être enrichis de sons, de vidéos, d'images d'archives, de beaucoup d'autres choses. On va également avoir des livres augmentés et on va pouvoir avoir des livres qui sont des croisements entre les livres papier et le livre numérique, en fait, finalement.
Alors, comment on peut croiser tout ça?
Eh bien, avec les nouvelles technologies de l'image, notamment. En l'état actuel des choses, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites autour de la réalité augmentée. Je pense que là, Dominique va pouvoir en parler.
Déjà, ça me plaît assez, cette expression de réalité augmentée.
Ouais,
la réalité me laisse souvent perplexe. Que dire de la réalité augmentée. Qui serait augmentée?
Effectivement, c'est un mot qui peut laisser, comme vous le dites, un petit peu perplexe. Je crois qu'on veut signifier par là simplement que, à partir d'une réalité physique existante et donnée, on augmente les paramètres ou les qualités de cette réalité en proposant à l'utilisateur une immersion dans l'environnement numérique qui, à ce moment-là, effectivement, peut permettre d'intégrer du son, de l'image animée, ce que le livre papier, réalité physique, réalité première, ne permettrait pas, évidemment.
Et donc, on peut imaginer de combiner plusieurs supports dans une lecture d'un modèle un petit peu nouveau, c'est-à-dire commencer par exemple à lire un article dans un dictionnaire, une encyclopédie, un livre, etc. Et puis de se dire que si on clique telle chose, on va en même temps ou en plus de lire cet article sur du papier traditionnel, regarder l'écran pour voir telle image ou écouter du son, une chanson, un bruitage.
Exactement. On parle beaucoup, c'est un mot qui est assez en vogue actuellement, de la question du transmédia. Si on considère le livre comme un média et que grâce à la réalité augmentée, on emmène vers un autre média, ben on est effectivement en plein dans ce concept de transmédia. Alors il y a plusieurs manières.
C'est-à-dire le transmédia, c'est le fait de lire ou d'avoir un accès à travers plusieurs médias à la fois.
Exactement.
C'est de raconter une histoire à travers plusieurs médias, en fait. C'est très intéressant comme concept. Et on peut se demander si le livre ne devient pas finalement un petit peu ce format ultime dédié au transmédia, puisqu'il va pouvoir permettre de réunir aussi bien de l'écriture, du papier, que de la vidéo, que du son, et encore beaucoup d'autres choses qu'on pourrait imaginer, puisqu'on est quand même encore au balbutiement de tout ça, et qu'il y a un champ des possibles qui est quand même très très large, et c'est très intéressant de pouvoir se porter sur ces questions, et aussi sur la place de l'écriture, en fait.
Alors l'écriture, on y viendra dans quelques minutes, mais restons maintenant au livre. Est-ce que vous avez l'impression que ce mot « livre » il change de sens, justement, ou en tout cas qu'il change de référent, qu'on peut après tout toujours parler de livre, mais que le livre de demain, ou peut-être de ce soir, sera assez différent de ce qu'on appelait un livre il y a 5 ans, 10 ans, 100 ans, 300 ans, 400 ans, puis après on s'arrête parce qu'on arrive à avant Gutenberg.
Écoutez, je pense que un certain nombre de personnes pensent qu'il faudrait inventer un nouveau mot pour ces objets nouveaux qui arrivent dans notre quotidien. On connaît historiquement le passage du volumen au codex, du livre roulé, du rouleau, hein, au livre tel qu'on le connaît encore aujourd'hui sous sa forme actuelle. Pour ma part, je pense que le livre papier est une forme absolue, définitive et indépassable, et que donc il y aurait lieu effectivement d'inventer un nouveau mot, puisque là on change dans les expériences. Je pense qu'on va parler tout à l'heure, j'imagine, de la question de la lecture et de l'expérience de lecture qui est proposée à l'utilisateur. Puisqu'on change d'environnement, de concept, on change en quelque sorte de paradigme. Et donc à paradigme nouveau, mot nouveau qui resterait à inventer. Mais je dirais, ça n'est pas là le cœur de la question. C'est comment réussir à être convaincant dans ces nouvelles expériences proposées aux lecteurs.
Alors, quelles sont vos réponses possibles? Comment, justement, est-ce que, Dominique Tourte, vous pouvez, vous qui êtes éditeur, arriver à être convaincant?
Ah, écoutez, moi, j'ai pas la recette.
Non, mais vous réfléchissez, mais, j'imagine.
Et puis, j'écoute beaucoup, je regarde, je dialogue avec mes confrères. Et finalement, là où il y a quelques années, mais très peu de temps, parce que tout ça va très vite, beaucoup se sont précipités dans le livre numérique, le pur numérique, homothétique, par exemple, ou même l'application livre enrichi.
C'est-à-dire qu'on garde le livre tel qu'il était avant, on change simplement de support.
Voilà,
et on voit apparaître les phrases, mais pas sur du papier, sur l'écran, par exemple.
Voilà. Ouais. Beaucoup pensent que finalement, ce livre, cette transposition, ce clone numérique du livre papier, c'est pas là où on peut lui pressentir l'avenir le plus grand. Et finalement, ce qui se dégage un petit peu de nos dernières rencontres tient plus à la complémentarité de l'environnement papier avec l'environnement numérique. C'est comment faire dialoguer les deux supports, comment les enrichir mutuellement. Sachant que dans le livre papier, on a évidemment une lecture qui est linéaire, traditionnelle, et que dans le livre numérique, on a une lecture qui peut être davantage, on peut utiliser une image circulaire, ou en tout cas, ou tridimensionnelle. Donc je crois que les...
En tout cas, ça permet de sauter d'un langage à l'autre. C'est vrai que vous le disiez très bien, on a une habitude du livre qui nous donne une façon de rentrer dans une histoire ou dans une information. Et on n'en saute pas. Mais quand on lit non pas un livre, mais par exemple un magazine ou un journal, plus un magazine encore, c'est vrai que là, on commence à prendre l'habitude de sauter d'une information à l'autre. On lit un article assez long, et puis il y a un petit encart, et puis il y a une note en bas de page, et puis on a des illustrations. Déjà, cette lecture, disons, du magazine est peut-être un premier pas pour apprivoiser notre façon de lire. Est-ce que vous avez l'impression que ça va dans cette direction, Blandine Lebon?
Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand on n'est plus dans l'homothétique ou autre, ou même dans l'applicatif, on n'est plus dans une lecture linéaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des contenus supplémentaires, effectivement, qui vont à un moment donné pouvoir nous couper de l'histoire ou non. Mais ça, c'est un choix que le lecteur a à faire. En fait, ça va apporter cette possibilité de pouvoir lire différemment en tant que lecteur. Ça va apporter la possibilité à l'auteur de raconter des choses de manière différente et qui sont un petit peu plus, vraiment enrichies, c'est le mot. Et effectivement, est-ce qu'on parle encore de livres ou non, c'est une vraie question. Je pense que ce qui risque de se passer, parce que comme dans d'autres médias, notamment sur la musique, le livre en tant qu'objet va récupérer une certaine valeur, en fait, en tout cas pour le lecteur, pour son possesseur, le beau livre va pouvoir revenir encore plus qu'il n'était présent précédemment. Et donc ça peut être un avantage, et je pense que je suis tout à fait d'accord avec Dominique, il y a un prolongement entre les deux médias, qu'ils soient physiques ou numériques. Il n'y a pas de cannibalisation du numérique finalement sur le livre. C'est une question qui est souvent posée, certains vont dire oui. Pour ma part, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des nouvelles possibilités qui sont apportées et que effectivement, il y a une complémentarité qui est vraiment à trouver, aussi bien pour le lecteur que pour l'éditeur, que pour l'auteur, certainement.
Eh bien, nous allons passer de l'écoute de ce que vous nous dites à l'écoute d'un tout petit peu de musique, et puis on y revient dans une minute ou deux. Blandine Lebourg et Dominique Tourte, merci encore d'être dans la danse des mots. Donc, pour nous parler de ces nouvelles stratégies de lecture et peut-être des nouvelles stratégies d'invention et d'écriture, tout ça dans l'écho de la rencontre de l'édition numérique qui se tenait le 22 mai dernier. Alors, est-ce que ces nouveaux objets, ils vont susciter une nouvelle façon de faire, par exemple, de la littérature, une nouvelle narration? Est-ce que vous avez l'impression que ça aura des conséquences pas seulement dans la façon dont on l'absorbe, dont on le déchiffre, dont on le comprend, mais dans la façon dont on le crée, bien sûr? On va écrire des histoires multimédia?
Je pense que c'est très vrai. Effectivement, ce qui se passe, c'est que les formats sont nouveaux et tout va tourner autour de raconter une histoire. Mm-hmm. Et on ne peut pas, si on prend une histoire qui a déjà été écrite pour un format classique papier, que l'on soit dans la bande dessinée ou dans le roman ou autre, finalement, on va pouvoir lui donner une version numérique, mais est-ce qu'elle sera pertinente? Alors que quand on crée pour le numérique, on va se poser cette question en tant qu'auteur, certainement, de se dire: comment est-ce que je peux utiliser tous ces outils à ma disposition pour raconter ce que j'ai envie de raconter? Et les plus belles expériences, en l'état actuel des choses, qui ont été réalisées, ce sont des expériences qui ont été développées et pensées directement pour le format numérique. Qu'il soit finalement une application ou sur le web, on peut très bien trouver quelque chose qui va s'apparenter à du livre, on va pouvoir écrire pour le format web, ou bien pour une mixité de formats en intégrant de la vidéo, encore une fois, ou des extraits sonores. Il y a même des choses qui se passent uniquement autour du son, par exemple. Il y a beaucoup d'expériences différentes qui sont faites. Et quand elles sont pensées pour ces formats, là, elles prennent vraiment tout leur intérêt, à mon sens.
Et qui est-ce qui, justement, maîtrise ou innove là-dedans? Est-ce que vous avez l'impression que le métier d'écrivain lui-même est en train de changer et qu'il y a des gens qui, justement, sont, est-ce qu'on va dire encore des écrivains? Tout à l'heure, on se demandait, est-ce que ça s'appellera toujours des livres? C'est pas des cinéastes, c'est pas des vidéastes, c'est pas des écrivains, mais c'est des gens qui picorent à droite ou à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Tourte, vous qui êtes éditeur?
Écoutez, chaque écrivain a sa personnalité, plus ou moins inversée, portée vers cette transition numérique. Moi, je rebondis sur ce que disait Blandine à l'instant. Ce qui me semble important, c'est la dimension. C'est un autre métier, en vérité. On n'est plus dans l'écrivain qui écrit, qui fournit, en quelque sorte, un manuscrit à un éditeur qui va le mettre en page, lui donner la plus belle forme possible. Mais on est vraiment dans une dimension collaborative. Et en ce sens-là, on est plus dans le travail On est plus dans la logique de l'audiovisuel, par exemple, de l'écriture d'un
c'est
film.
C'est plus une création d'atelier qu'une création personnelle
tout à
ce
fait,
moment-là.
Tout à fait. Et il y a des contraintes très fortes. D'abord, il y a des contraintes d'écriture proprement dite, mais il y a aussi des contraintes budgétaires, parce que quand on est dans le développement numérique, on est dans des considérations budgétaires qui sont très importantes.
C'est-à-dire que ça coûte plus cher.
Ça coûte beaucoup plus cher,
c'est
évidemment.
Ça, que ça veut
ça
dire.
Coûte beaucoup
ouais.
plus cher.
Bah,
et puis, on peut pas revenir facilement en arrière.
S'il y a plusieurs personnes, ça fait plusieurs personnes à payer.
Voilà. Et puis, on développe, donc, c'est-à-dire, on construit petit à petit, et c'est très difficile de revenir en arrière. Donc, faut pas se tromper. Donc, ça veut dire qu'il faut, avoir, on est dans une logique beaucoup plus, industrielle, c'est pas le mot, mais, sans doute, qui doit être davantage mesuré.
Est-ce que vous feriez un parallèle avec ce qui se passe, par exemple, pour les arts plastiques ? Alors, bien sûr, il y a très longtemps qu'il y a une histoire de la peinture. Aujourd'hui, il y a encore des peintres, des gens qui peignent, mais il y a de plus en plus de gens travaillent pour faire ce qu'on appelle des installations, qui travaillent sur des dispositifs qui lient la vidéo à la peinture, à la sculpture, et qui essayent d'inventer, en fonction justement des nouvelles possibilités techniques, des nouvelles formes d'expression artistique.
Ah oui, je crois que le parallèle peut être fait. On est, de toute façon, on est dans des logiques d'objets multisensoriels, donc qui font appel à des compétences, à des métiers très divers, parce qu'il y a l'image, bien sûr, il y a l'image animée, il y a le son également, il y a l'écriture proprement dite, il y a le développement numérique. Enfin, on est effectivement dans des logiques. D'ateliers, presque, ouais. On pourrait dire presque comme les ateliers à la Renaissance, où chacun avait sa tâche.
Et quelle serait la vôtre, vous qui êtes éditeur ? Est-ce que ça change votre travail aussi ?
Assurément, et même profondément.
Ouais. Ouais. Nous, c'est plus du tout la même chose d'être éditeur.
Non, effectivement. Nous, on est vraiment au tout début, on est tout jeune. Ouais. Je vous raconterai peut-être quelques expériences un peu plus tard dans l'émission, si c'est possible. Mais l'éditeur, dans ce sens-là, est une forme de chef d'orchestre. Qui doit chercher à maîtriser l'ensemble de la chaîne et faire en sorte que le résultat soit satisfaisant au regard du projet, du concept qui
était. Est-ce que vous rapprochez d'un producteur de cinéma, par exemple?
Je crois.
Producteur, ouais, non pas au sens celui qui donne les sous, mais au sens celui qui justement harmonise les corps de métier et les corps d'invention, disons.
Je crois que c'est tout à fait ça, avec beaucoup d'humilité de ma part. Je suis pas producteur, mais il y a cette dimension en tout cas d'aventure collective et de prendre des risques aussi, et puis et de faire en sorte que la personne soit là au bon endroit au bon moment.
Bah écoutez, encore une petite minute de musique et puis les histoires que vous vouliez nous raconter, vous allez prendre le temps de le faire.
Ilê, aiê, como você é bonito de se ver. Ilê, aiê, que beleza mais bonita de se ter. Ilê, aiê, como você é bonito de se ver. Que beleza mais bonita de se ter. Ilê, aiê, sua beleza se transforma em você. Ilê, aiê, que maneira mais feliz de viver. Como você é bonito de se ver. Ilê, aiê, que beleza mais bonita de se ter. Ilê, aiê.
Caetano Veloso met un petit peu de couleur dans cette émission de La Danse des Mots, mais je reviens vers vous donc, Dominique Tourte, pour vous demander de nous parler un petit peu de ce qui a pu se passer aux éditions In Venite récemment. Donc il y a eu des expériences déjà, donc vous avez été à la fois le témoin et un peu l'acteur.
Oui, tout à fait. Moi je viens du papier. j'ai un amour pour le papier. Et donc, j'ai pas envie de lâcher le papier, évidemment. Et c'est ce qui nous amène aux éditions Invenit à réfléchir sur ces liens qu'on évoquait il y a quelques instants, de passage de l'univers du papier vers l'univers du numérique. Et en ce sens-là, je peux prendre deux exemples qui sont un peu le cœur de notre travail actuellement. Un livre à réalité augmentée adressé aux enfants qui est en fait une narration écrite par une auteure jeunesse, romancière jeunesse, Carole Five, dans laquelle un maître imprimeur du 15e siècle s'adresse à un enfant lecteur et lui propose de participer à l'aventure de l'invention de l'imprimerie.
Donc il y a toute une mise en abîme de l'histoire du livre.
Tout à fait. Vous voyez,
pour aller justement vers l'avenir, vous revenez à ce qui s'est passé au 15e siècle, quand justement l'imprimerie était une innovation débutante.
On jette un grand pont entre deux révolutions, la révolution Gutenberg et la révolution numérique. C'est un petit peu le cœur du projet. Et donc l'enfant, en lisant son album papier, régulièrement, est amené à interagir avec une tablette et à rentrer dans l'environnement numérique et à aider le maître imprimeur dans son travail. Et donc, il se fait l'apprenti du maître. Et ainsi, il va vivre le processus de création d'un incunable, puisque là, on est vraiment dans tous les...
Alors, rappelez-nous ce qu'on appelle un incunable.
Les incunables sont les livres qui ont été imprimés, très nombreux cependant, c'était les tout débuts de l'imprimerie, mais très très vite, ça s'est répandu, entre 1452-53, date de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, et le 1er janvier 1501. À partir du 2 janvier 1501, on ne parle plus d'incunable. Enfin, tout ça, c'est une codification un peu artificielle, bien sûr, parce que le livre n'a pas changé l'année 1501, mais voilà. Et donc, l'enfant, voilà, ça, c'est le premier exemple. Et le second exemple, qui va voir le jour dans quelques mois maintenant, pour le musée des Confluences de Lyon, qui ouvrira en fin d'année prochaine, enfin, en fin d'année 2014, une collection qui s'appelle « Récits d'objets », dans laquelle des auteurs ont été invités à écrire sur des objets des collections, sur un mode de récit, un mode fictionnel ou poétique. Et la reproduction de l'objet donnera lieu, grâce à la réalité augmentée, à la vision de l'objet en trois dimensions, sur un smartphone ou une tablette, et en plus donnera accès à un entretien avec l'auteur en vidéo. Donc vous voyez, c'est vraiment une complémentarité, un enrichissement, une augmentation, voilà, comme on peut l'appeler, mais voilà, c'est...
Alors, on vient de voir l'une des directions que pourrait prendre le livre avec toutes ces innovations tout à fait imprévues. On vient de voir que le livre peut-être, ou la façon de mettre en scène des narrations serait le fait non pas d'une personne, mais d'une équipe. Inversement, on voit que ces livres numériques, ils peuvent être composés par quelqu'un presque sans éditeur. C'est-à-dire que on a le phénomène complètement inverse. Quelqu'un chez lui, avec un ordinateur, peut créer un livre numérique. Plus besoin d'éditeur, je fais tout ça moi-même. Est-ce que on se dirige aussi dans cette direction, Blandine Lebourg?
Oui, c'est possible. Le phénomène de l'auto-édition est un phénomène qui prend d'ampleur et qui a déjà pu prouver et avoir quelques grands succès. D'ailleurs, finalement, ces succès ont finalement trouvé éditeur pour avoir une version papier au final, majoritairement la plupart du temps. Mais ça, c'est l'impact de l'Internet, en fait, sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que finalement, tout à chacun peut s'en saisir pour essayer de communiquer et de trouver son propre public. Maintenant, c'est pas aussi simple. Tout le monde ne peut pas être auteur du jour au lendemain, j'imagine bien. Et voilà. Et par contre, c'est vrai que ça permet peut-être de se connecter directement à son public, de trouver son public par soi-même. Et ça, c'est très intéressant, et de pouvoir finalement élargir les différents choix de propositions qui peuvent exister au niveau de la littérature. Mais c'est un avenir possible, effectivement, du livre également.
Ce qui veut dire que les auteurs, directement, s'adresseront à ceux qui lisent ou qui comprennent, ou qui entrent dans leurs œuvres. J'ose même plus utiliser le verbe lire, vous voyez, puisque on ne sait pas si c'est... Bon, enfin, le verbe lire, on le met à toutes les sauces. Mais donc l'auteur irait directement s'adresser à ses lecteurs potentiels.
Il pourrait, si demain l'auteur est très, très est connu et il a son public qui le suit, il peut très bien publier directement sur son site ou sur son blog une version numérique, développer une application si ça fonctionne bien, ou passer également finalement par des plateformes qui proposent ce genre de choses, puisque même Amazon s'y est mis, finalement on peut déposer un manuscrit sur Amazon et le vendre directement. Alors est-ce qu'il se substitue aux éditeurs ou non dans le numérique, c'est vraiment une autre question.
Alors c'est encore une autre façon de considérer l'auto-édition. C'est l'auto-édition, mais avec une aide de ce que vous appelez une plateforme, Blandine
Lebourg. Voilà, tout à fait. Il y a des plateformes qui existent et qui permettent effectivement cette mise en relation entre un auteur et un public, où finalement le public de lecteurs va pouvoir avoir accès à différents auteurs qu'ils ne connaîtraient pas, mais qui vont être réunis sur une même plateforme.
Ouais. Donc, vous dites demain. Aujourd'hui, ça existe pas encore.
Aujourd'hui, ça existe déjà, bien évidemment.
Mais bon, c'est vraiment quelque chose de très isolé encore, ou ça se développe?
Ah non, ça se développe. Non, ça se développe réellement. Est-ce que c'est l'avenir? C'est quand même assez difficile à dire, mais parce que ça touche finalement pas que le livre, ça touche plein d'autres secteurs, le jeu vidéo bien avant, la musique également. Le livre est un petit peu le dernier.
La musique, c'est un bon exemple, parce qu'on a vu que plus les façons d'enregistrer étaient sophistiquées, plus il y avait des gens justement qui n'allaient plus en studio, mais avaient dans leur cuisine un ordinateur suffisamment performant pour enregistrer par couches successives, pour mixer eux-mêmes, et ce qui se faisait jadis de façon très compliquée, extrêmement cher, se fait de façon beaucoup plus économique maintenant et de façon beaucoup plus intime. C'est peut-être pareil pour le livre ?
Oui, certaines. Enfin, oui et non, ça dépend ce
des
qu'on appelle.
Les auteurs de cuisine, on dira. Alors, on parle pas des lecteurs de cuisine, mais c'est parce qu'on parlait beaucoup de ces compositeurs qui travaillaient justement dans un coin de leur appartement.
Oui, non. En fait, ce qui se passe, c'est que les formats sont différents. Là, on va parler de gens qui vont publier uniquement sur un format numérique. Si demain ils veulent publier un livre dans un format public, il me semble qu'ils vont devoir de toute manière demander à un éditeur de les aider à trouver ce public. En fait, on va. Je pense qu'on parle plus finalement de la création. Et la littérature, c'est comme pour tout, ça veut dire qu'on va pouvoir permettre à des gens de s'exprimer et on va pouvoir permettre à des artistes d'émerger par eux-mêmes. Et ça me semble assez important et c'est peut-être quelque chose de très positif avec toute cette transition numérique.
Eh bien, écoutez, merci pour toute cette prospective. Merci à vous deux, Blandine Lebourg et Dominique Tourte, d'être venus dans La Danse des mots, qui est
une émission
proposée par le réseau Canopé et par RFI, Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.
Vous souhaitez réécouter l'émission La Danse des mots ? Rendez-vous sur le site internet rfi.fr.